Dernière thématique, avant peut-être de passer la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Du point de vue de vos enseignements, je vais dire de manière un peu provocante, mais si l'on regarde l'ensemble de votre enseignement, vous avez enseigné beaucoup plus à des non-musiciens qu'à des musiciens. Parce que, bon, vous nous avez expliqué hier les réserves que vous aviez pour enseigner la composition aux musiciens, ben, pour ma part, je les comprends très bien. Mais il se trouve que pendant 20 ans, donc, vous avez enseigné la musique au Collège de France. Au Collège de France, par définition, ça s'adresse à des tout public, enfin, donc à des non-musiciens. Alors ça, c'est une chose d'ailleurs à laquelle cette institution est sensible, parce que nous-mêmes, dans le département Patrick des Arts, on fait des cours de musique pour justement des non-musiciens, enfin, scientifiques et littéraires, qui peuvent être musiciens amateurs, mais qui ne sont pas musiciens professionnels. Alors, est-ce que c'est quand même assez frappant de voir que finalement, et puis d'autre part, dans toute une série d'actions pédagogiques ou didactiques que vous avez faites à l'IRCAM ou autour, vous avez justement essayé de, quand même, somme toute, enfin, je ne sais pas si vous diriez enseigner la musique, enfin, ça s'appelle quand même leçon de musique, donc il y a bien quelque chose comme un enseignement ou une instruction, d'adresser la musique non pas immédiatement aux musiciens pour les faire progresser dans l'art, mais aux non-musiciens. Bon. C'est assez frappant parce que ça me paraît assez aussi unique, on va dire, dans la catégorie que j'aime appeler celle des musiciens pensifs, c'est-à-dire pas simplement ceux qui sont artisans, mais ceux qui aussi se soucient de réfléchir leur art et de le formuler dans la langue, d'associer donc cette réflexion à une transmission bien au-delà du public des musiciens. 20 ans d'enseignement à des non-musiciens et 3 ans, 2-3 ans à des musiciens, c'est assez étrange.
Oui, c'est une proportion inversée par rapport à ce qui pourrait être. Mais je vous ai dit, je ne croyais pas à l'enseignement de la composition, donc il faut bien commencer par autre chose. Et en effet, le but du Collège de France est de tenir un public aussi peu... disons choisi que possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sélection de public, c'est ça que je veux dire. Tout le monde peut venir, qui veut venir, n'importe, n'a pas besoin de présenter patte blanche, si je peux dire. Donc, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est de faire partager, du reste c'est le but du Collège de France, de faire partager les réflexions que j'étais en train de faire à ce moment-là, dans cette année-là, sur les travaux que j'étais en train de faire. C'est pour ça qu'il y avait deux choses. Il y avait les leçons qui étaient des leçons, ce qu'on appelle magistrales, c'est-à-dire où j'exposais un certain nombre de choses qui me préoccupaient juste à ce moment-là, mais évidemment sous une rubrique générale. Je ne parlais pas de mon quotidien, je parlais simplement d'une préoccupation plus générale. Et il y avait aussi, au même moment, il y avait des séminaires. Et alors des séminaires qui étaient vraiment, eux, très pratiques, c'est-à-dire des séminaires qui se concentraient sur l'œuvre que j'étais en train de faire à ce moment-là. Je l'analysais, je donnais des exemples, je m'occupais de faire comprendre directement, alors avec tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire des moyens d'écoute indispensables, qui faisaient comprendre exactement comment je, par exemple, comment je développais une idée. Donc ce côté pratique, manuel, je dirais, étant évacué par les séminaires, les leçons étaient au contraire tournées constamment vers des problèmes très généraux que peut-être tout le monde ne pouvait pas comprendre d'une façon identique, mais je tâchais d'aller, disons, à une pensée suffisamment générale pour être comprise de celui qui ne fait pas de la musique directement. Et ça m'intéresse beaucoup, en effet. Parce que on a des occasions d'éduquer un public, disons, par des œuvres, par des concerts. C'est-à-dire, le concert est une forme d'éducation musicale. Que ce soit une éducation plus plaisante ou moins austère, c'est tout à fait vrai, plus attractive, je dirais. Mais il y a un côté, malgré tout, un côté pédagogique. Simplement dans le fait que le concert réunit un certain nombre d'œuvres que vous mettez en face les unes des autres, qui s'éclairent les unes des autres, qui se repoussent les unes des autres, et qui vous font réfléchir aux unes et aux autres. Donc, il y a de ce point de vue-là, un côté qui est dissimulé autant que possible, mais qui existe et qui est une pédagogie par l'œuvre elle-même. Et puis, la pédagogie de la création, c'est autre chose. C'est comment vous arrivez à une œuvre. Là, quand vous avez un concert, vous ne dites pas comment vous arrivez à cette œuvre, vous le faites tout simplement. Tandis que dans une leçon, vous expliquez quels sont les problèmes. Il y a un problème, il y a un problème, par exemple, que tout le monde peut comprendre et qui a été la dernière année de mon cours au Collège de France, qui s'appelait le tout fini ou non fini, ou infini. Je voulais pas justement faire l'ambiguïté du mot. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'était le sens de ça. Et donc, est-ce que l'œuvre est aboutie? Et je ne me rappelle plus quelle citation j'avais donnée, mais c'est l'œuvre n'est jamais achevée, elle est simplement terminée provisoirement. Et je trouve, pour moi, c'est quelque chose de... En effet, on peut toujours revenir sur une œuvre et y revenir, soit en créant une autre œuvre, soit en revenant à cette même œuvre. Et la conception d'abouti est une conception qui se délite au fur et à mesure qu'on avance. Si vous voyez par exemple en littérature, bon, le Proust, c'est une œuvre achevée, mais c'est une œuvre achevée parce qu'il est mort et qu'il n'a pas pu ajouter quoi que ce soit parce que la coupure était définitive. Mais on voit très bien que les derniers chapitres du roman sont écrits tout à fait à la va-vite, et qu'il y a des contradictions, il y a des personnages qui étaient morts, qui revivent, il y a des confusions topographiques, etc. etc. Enfin, il y a vraiment un lot de contradictions, parce qu'on voit que ça a été écrit sous pression, et qu'il a fallu terminer avant de laisser tomber la plume. Mais une œuvre, par exemple, comme Finnegan's Wake, est une œuvre où exprès, qui est bien terminée, elle, mais qui exprès est une sorte de recommencement. La phrase finale se termine par trois points et la phrase qui commence le roman se commence aussi par trois points, si bien que la phrase qui termine se continue par la phrase qui commence. Et donc on voit déjà le côté inabouti de l'histoire, c'est-à-dire c'est une perpétuelle relecture. Vous pouvez relire le livre constamment si vous avez envie de le faire, naturellement. Donc il y a quelque chose dans la fragmentation. Je vois par exemple la production de René Char. Je crois qu'il y a un seul poème qui est un poème long. C'est Le visage nuptial. Et Le visage nuptial qui a engendré les deux autres, qui sont des poèmes plus courts, mais des poèmes narratifs. Et je crois que ce sont les seuls poèmes narratifs de René Char. Car après, vous avez l'œuvre en fragmentation. Et c'est une œuvre qui est restée constamment en fragmentation, c'est-à-dire... vous pouvez les relire dans n'importe quel ordre. L'ordre n'est plus du tout narratif, mais c'est un ordre que vous pouvez décider vous-même. Donc on voit que le livre est fait et en même temps le livre n'est pas fait, parce que vous pouvez le lire dans toutes les directions. Et je pourrais vous aussi, pour les tableaux par exemple, les séries de Monet par exemple, avec des mêmes paysages, mais seulement qui sont dans des teintes différentes. C'est pour moi le type de l'infini, parce que vous pouvez continuer comme ça, perpétuellement. Il aurait, au lieu de faire 6 tableaux d'ormes, par exemple, de peupliers, du moins, je veux dire, où il aurait pu en faire 40, il aurait pu faire 100 églises de Rouen. Il y a quelque chose de non fini dans la pensée. Il y a quelque chose qui peut se prolonger et qui commence assez tôt, justement, on voit dans la peinture, le Monet, c'est 1880 à peu près, entre 1880 et 90. Et aussi, on voit le mal que Debussy a eu à vouloir finir certaines œuvres. Et que certaines œuvres sont restées en souffrance et sont restées un tout petit peu comme ça, disons, dans l'attente de quelque chose d'autre. Si vous voyez les esquisses des opéras de Debussy, des opéras qu'il n'a pas écrits, c'est-à-dire la suite de la Maison Usher en particulier, on sent qu'il y a quelque chose et quelque chose qui ne peut pas se cristalliser, qui ne peut pas finir. Donc, même dans les œuvres finies, il y a quelque chose d'infini ou de non fini, et dans les œuvres non finies, on voit qu'il y a une tendance au fini, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'ambiguïté qui existe et beaucoup. À partir de, en particulier de la première moitié du XXe siècle, déjà.